Votre invitée à présent, Patricia Martin.
Blandine de Cône.
Blandine de Cône pour son livre sur la mère morte. M-E-R-E, la mère morte qui paraît chez Stock.
Bonjour Blandine de Cône.
Bonjour.
Vous êtes trois femmes très belles sur le bandeau de couverture du livre.
Oui.
Vous êtes à gauche.
Je suis à gauche, ma mère Benoît Groulx donc au milieu et ma fille Violette à côté.
La mère morte, pour revenir au titre du livre, c'est un peu un titre à double sens, c'est-à-dire que vous avez perdu votre fille unique, Violette, et vous avez perdu votre mère unique,
oui.
Benoît Groulx.
Au départ, j'écrivais ce livre sur ma mère. J'avais ce projet depuis qu'elle avait cette terrible maladie d'Alzheimer. J'avais décidé d'écrire le dernier chapitre de sa vie, puisqu'elle a écrit sur tous les épisodes de sa vie, aussi bien dans la fiction que dans l'autobiographie. Évidemment, le dernier, elle ne pouvait pas l'écrire, ouais. Donc j'avais besoin de le faire. Ouais. Et puis, ma fille, malheureusement, est morte dans un accident de voiture, 2 mois avant ma mère. Et mon livre, je pouvais pas faire comme si ça changeait tout, même mes rapports avec ma mère, qui était mourante, on va dire, plus là, mais encore là tout de même physiquement, et ma fille qui n'était plus là. Enfin bon, c'est assez compliqué en plus du chagrin et de la perte d'un enfant.
Mais il faut dire, Blandine de Cône, que c'est un livre qui prend aux tripes, mais ça n'est pas un livre désespérant. On se dit que finalement chez vous, cette famille, de prendre les choses du côté de la vie, ce goût forcené, oui. Pour la vie.
Ma mère avait ce goût forcené de la vie, elle me l'a transmis et je me suis rendu compte que c'est elle qui m'avait aidé à surmonter ce deuil, que j'avais repris peu à peu goût aux choses de la vie, aux petites choses, puis aux grandes, et que bon, même si une partie de moi est morte à la mort de ma fille, la partie qui reste, elle est bien vivante.
Il faut peut-être dire, et j'espère que vous n'allez pas vous formaliser de ça, mais c'est à qui, aux auditeurs les plus jeunes, qui a été Benoît Groulx, qui a été quelqu'un d'important dans la vie intellectuelle française, et qui était également Flora Groulx.
Alors, deux sœurs, Benoît et Flora, qui ont commencé à écrire ensemble leur journal à quatre mains, qui a été leur premier livre.
Merveilleux.
Ah oui, 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 qui continue, d'ailleurs je vois beaucoup. Bon. Et puis maman, elles ont écrit 2-3 romans ensemble. Maman a écrit en 1975 un pamphlet féministe qui s'appelle Ainsi soit-elle, qui a été un immense succès, puisqu'elle a vendu plus de 2 millions d'exemplaires en France, traduit dans le monde entier. Et c'était vraiment c'était une féministe, mais pour et avec les hommes aussi. Et ça, elle insistait toujours.
Elle a aimé des hommes, elle a aussi écrit sur eux.
Oui, beaucoup. Et elle avait de l'humour. Contrairement à Simone de Beauvoir, que maman admirait énormément, mais qui n'avait pas d'humour. Donc le message, entre guillemets, de maman passait peut-être mieux grâce à cet humour formidable.
Benoît Groulx avait beaucoup de panache, je trouve, et on se dit que le vieillissement, l'affaiblissement, les pertes de mémoire, puisqu'elle souffrait d'une maladie d'Alzheimer, tout ça a été quelque chose évidemment de progressif, mais de particulièrement douloureux, et elle était parfois dans le déni de ce qui arrivait.
Maman a toujours été dans le déni de ce qui la dérangeait. soi-disant, elle n'était jamais malade. Malade, elle n'avait jamais mal nulle part. En lisant son journal après sa mort, j'ai découvert qu'elle était malade comme tout le monde, qu'elle souffrait comme tout le monde physiquement. Et pour la perte de mémoire, au début, on veut pas y croire. Même nous, ses filles, on se disait c'est normal, parce que ça a commencé assez tard. Elle avait, disons, 92 ans. Donc on se dit, elle perd un peu la mémoire. C'est quand les choses s'aggravent qu'on est obligé d'y être confronté.
Mais à un moment donné, par exemple, vous racontez une histoire où elle veut faire illusion, elle emploie des ruses, c'est au ministère du droit des femmes, et vous vous rendez compte qu'elle est en train de s'enfoncer complètement.
Oui, parce que ça a été sa dernière intervention publique, et ce jour-là, parce qu'il y avait des jours avec, des jours sans, elle n'avait pas tout son esprit, et c'était terrible, parce qu'elle répondait à côté, et moi j'étais au premier rang, et je ne pouvais pas aller faire la fille qui prend la place de sa mère pour lui souffler les paroles, les réponses que je connaissais par cœur. Alors ça a été un moment très douloureux pour moi, et je me suis juré que plus jamais je ne la laisserai aller. C'est-à-dire, je devais prendre le pouvoir sur sa vie et décider de ce qu'elle faisait
elle
pas.
Elle qui ne voulait jamais décider que pour elle-même. Hein.
Oui.
Est-ce qu'elle avait un peu un statut de commandeuse dans la vie?
Oui, parce que elle avait d'abord une personnalité très forte, elle était très brillante, très intelligente, puis cet immense succès qui l'auréolait aussi. Donc oui, c'était impressionnant de la voir. Pas pour nous, ses filles, parce qu'on avait une relation tellement forte, charnelle. Bon,
que vous avez eu aussi avec votre propre fille?
Ah, totalement. Totalement. Je crois qu'on reproduit ça et la mère de maman l'avait. Ouais. De génération en génération, ce sont des filles d'ailleurs, on fait que des filles chez nous, on sait faire ça, que ça. Et c'est toujours très passionnel, très charnel, oui.
Un jour, elle vous dit « je me demande comment je vais mourir » et ça vous a fait sursauter.
Oui, parce qu'elle n'en parlait jamais. Et surtout qu'elle elle a répondu elle-même, elle m'a dit « ah ben, ce qui serait bien, ça serait dans mon sommeil ». Et elle a ajouté « mais ça arrive rarement ». Mais ça m'a, oui, parce que jamais elle devait penser quelque part qu'elle était immortelle.
Ou alors elle se disait qu'elle mourrait avec Paul Guimard, empêchant la crevette.
Ah oui, ça c'était son rêve. Tous les deux, une fois que j'étais bien vieux, de tomber à l'eau et de, voilà. Oui, malheureusement, c'est pas, ça ne s'est pas passé comme ça.
Est-ce que vous avez appris, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais beaucoup de choses sur elle en lisant son journal?
Non. D'abord parce qu'on parlait de tout avec maman depuis toujours, que j'avais lu parfois des petits extraits de son journal, puis qu'elle a tout raconté dans ses livres. Elle racontait et on en parlait. Donc vraiment, j'ai rien découvert.
De sujet tabou, même aucun. Au sujet par exemple d'un amant qu'elle a...
L'amant américain, cœur, dont elle parle dans le journal d'Irlande. Non, on le connaissait, il venait à la maison. Non, il n'y avait aucun sujet tabou chez nous.
Est-ce que ce livre vous a, Blandine de Cône, un peu allégé du fardeau que vous portiez? Parce que vous montrez bien comment finalement le chagrin est un travail de destruction souterraine.
Oui, l'écriture a été très douloureuse, mais elle était pour moi absolument nécessaire, j'avais besoin d'écrire ce livre. Maintenant qu'il est écrit, que j'ai dressé une sorte de tombeau, j'espère littéraire, à ma mère et à ma fille, et qu'il a ce bel accueil, oui, ça me saoule, ça me fait du bien.
Ça fait du bien de le lire. La mère morte, Blandine de Cône, merci, est publiée aux éditions Stock.
Merci et bonne journée.